disparu, Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly, Eden, Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin, T-Rex, Elvis.
J'espère que vous aurez apprécié à sa juste valeur le clin d'œil que nous a adressé Marianne ce matin. Alors, les femmes qui ont illustré ce merveilleux sujet, c'était Catherine Leforestier qui nous parlait des merveilleux et Barbara Streisand qui nous parlait d'une rose d'occasion. Et pour terminer, Jane Birkin et ses ex-fans des 60s. Tous ces gens chantaient dans les années 69, 70, 71, 72, puisque c'est ainsi que Marianne nous a fait notre choix musical d'aujourd'hui pour illustrer les années qui ont suivi les 68 ardes. Et les 68 ardes, on s'y replonge effectivement aujourd'hui pour une heure. La dernière fois, c'était un petit prélude. On avait reçu Eliane Perrin, qui nous a raconté un petit peu à coup d'anecdotes quels étaient les événements qu'elle avait vécu en 68. Aujourd'hui, eh bien, on a d'abord quelques problèmes un peu avec notre invitée en direct. Marie Bonnard a oublié de venir, rendez-vous compte. Mais heureusement, elle accepte de nous répondre par téléphone dans quelques instants. Donc on se branchera en direct, non pas avec le Brésil, mais avec Genève. Mais en attendant, je vais vous faire échanger ce que j'ai discuté hier soir avec Anne-Lise Dupasquier. Anne-Lise, elle aussi, a participé à mai 68, mais elle s'était engagée déjà avant, un petit peu comme Eliane. Elle vivait une situation déjà un peu différente, elle était déjà mariée, elle était en train de penser à avoir des enfants. Et on verra que son mai 68 a pris un peu une couleur différente que celle d'Eliane.
Alors, pour moi, mes 68 n'étaient pas du tout le début d'un engagement, mais bien une continuation, puisque avant 68, j'étais engagée au Parti Socialiste, en pensant qu'en m'engageant dans une structure traditionnelle, il y avait un certain nombre de choses à faire, il y avait des éléments. Aussi, la structure du parti a changé, a introduire de nouvelles idées, de lutte, notamment par rapport aux conditions de travail, aux conditions de vie en général, et prévoir des structures pour que les femmes puissent avoir une activité indépendante de type professionnel et vivre différemment que ce que les familles et les femmes avaient vécu jusqu'à présent. Et là, c'était aussi un projet qu'on partageait avec d'autres couples, puisque pour nous, il s'agissait d'avoir une vie professionnelle et personnelle et familiale partagée aussi bien entre les hommes, entre les femmes, et qu'il n'y ait pas seulement des tâches féminines. Et c'était un peu le contrat que plusieurs couples avaient fait en se mettant ensemble à l'époque.
En fait, ça, c'était avant 68.
Ça, c'était avant 68. Et 68 a été pour nous, enfin, bien sûr, la confirmation de toute une série de choses, que des choses nouvelles pouvaient se passer, que des valeurs nouvelles pouvaient être entendues. Et déjà avant 68, j'avais quitté le Parti Socialiste parce que ça ne répondait pas à mes attentes. Et d'autres amis qui s'étaient engagés au Parti du Travail étaient encore dans ce parti jusqu'à ce qu'ils soient exclus à la suite justement de mai 68, où il y avait certainement plus de force de changement, plus de volonté de changement, plus d'espoir de changement. Et c'est à partir de ces sorties d'organisations existantes, ça. Politique essentiellement ou d'exclusion disons des groupes se sont créés. Et c'est bien, moi je pense quand même, c'est bien mai 68 qui a quand même suscité l'espoir en disant, mais en créant des organisations qui défendent des valeurs auxquelles on croit, de changement de société, bien, effectivement, cette société pourra changer.
Parce que tu pourrais nous dire un peu plus précisément le plan de vie que vous étiez fixé, c'était quoi, 64, 65, par là?
Oui, 65.
C'était quoi? Quand tu dis le couple, les rapports hommes-femmes, tu peux nous donner un ou deux exemples concrets d'à quoi vous croyez mordicus?
Alors,
de différent?
C'était en tout cas d'avoir chacun une vie professionnelle. Mais une vie professionnelle qui soit pas tentaculaire et qui prenne tout le temps, évidemment, dans le cas particulier, tout le temps de l'homme, si on pensait à la tradition. Et puis, donc, que si possible, un travail à temps partiel où on ait le temps de faire autre chose. Parce que le travail, bon, c'est important, mais c'était pas le tout. Et puis, alors, de manière très, très précise, sur le plan de la vie familiale, des enfants qu'on pensait avoir, ne pas être la femme au foyer qui s'occupe des enfants, parce qu'on estimait aussi que c'était une tâche chouette que les hommes pouvaient avoir aussi le plaisir d'assumer, et puis ça permettait au fond un échange plus important et une éducation beaucoup plus riche au fond sur pas une confusion des rôles de l'homme et de la femme, mais une certaine interchangeabilité, et pas seulement le poids du ménage des enfants sur la femme. Et ça, c'était non seulement un projet de notre couple, mais c'était un projet de couples nombreux à l'époque.
Avec qui d'ailleurs vous avez vécu en partie communautairement, non? C'était aussi la grande époque des vies à plusieurs.
En tout cas, des discussions de vivre en communauté, soit dans le même appartement, et nous on a choisi de vivre en appartement conjoint. Donc c'était quand même un désir de vie individuelle, pas en communauté, mais avec une entraide au niveau de la garde des enfants, au niveau du ménage, au niveau d'un certain nombre de choses.
Et ça, dans l'euphorie de mai 68, donc tout le monde dans la rue, les grands débats, est-ce que toi, quelle a été ta participation à ce moment-là? Tu te souviens? Tu faisais les manifs, c'était dans ton lieu de travail, ça discutait, c'était les grands débats au sein du parti, justement?
Alors, c'était
les lieux de remise en cause?
C'était bien sûr les manifestations, mais moi, j'étais vraiment une participante, pas si dans le sens que je n'étais pas du tout dans les organisateurs, ni dans les leaders, ni dans les orateurs. Mais, et puis dans mon lieu de travail, c'était un lieu de travail très traditionnel, où en fait, c'était la remise en cause était toujours vue de manière très dangereuse. Donc au fond, c'était la crainte dans un milieu de travail de fonctionnaires très petits chefs. Hein.
Donc tu travaillais au service de la recherche de DIPS?
Non, je travaillais à l'inspection du travail.
Ah, voilà.
Donc très proche des milieux de travail, et des gens issus des entreprises, et au fond, qui n'étaient pas du tout proches des syndicats, et qui avaient très peur de tout ce qui était... Donc c'était pas très bien vu. Et effectivement, je m'affichais pas tellement, j'étais discrète sur mes activités extra-professionnelles.
Donc il y avait un hiatus entre ta profession, tes engagements et tes espoirs politiques,
ouais,
et puis une certaine vie personnelle.
Oui, alors là c'était aussi quelque chose, enfin disons, on n'avait pas du tout l'intention de se réaliser dans sa profession. La profession était un gagne-pain, si c'était intéressant, tant mieux, mais en fait on n'était pas... On se réalisait dans les activités extra-professionnelles. Et puis on essayait de faire quelque chose essentiellement dans les activités extra-professionnelles.
Quand tu disais on espérait changer la société, c'était quoi le grand espoir? C'était que le pouvoir change du tout au tout. À quoi vous croyez, mordicus, à ce moment-là?
C'était au fond que les conditions de travail soient meilleures, que les gens, une certaine égalité des chances en fait, et des conditions de vie. Donc c'était une volonté qui émoigne de différence entre les classes sociales. Donc c'était très, très classique comme position, mais c'est vrai que ça nous semblait être quelque chose de réalisable. Et mai 68 a été... crois, un espoir de plus. Mmh. En disant, bon, on est dans la, on est non seulement dans la bonne ligne, mais enfin, il y en a beaucoup d'autres qui sont
nous jouent. Toutes ces manifs, toutes ces choses-là, est-ce que ça a permis de faire franchir un pas supplémentaire par rapport, entre autres, à la critique que vous faisiez des organisations traditionnelles telles que les partis socialistes du travail?
Alors, c'est arrivé au fait qu'on s'est rendu compte, ou en fait, on a conclu que les organisations traditionnelles ne répondaient pas à ce qu'on voulait réaliser dans la société, donc, en fait, à l'adhésion à des groupes qui sont créés extérieurs aux partis, aux syndicats, même si on est resté dans les syndicats, et c'était les groupes qu'on appelait gauchistes de l'époque, où en fait on avait des activités dans les domaines de travail, dans les domaines internationaux, dans les domaines militaires, enfin disons, ça recoupait au fond l'ensemble des activités d'un parti à des groupes relativement restreints, du point de vue numérique et du point de vue des forces qui existaient.
Est-ce que dans ces groupes-là, les choses ont beaucoup changé en matière de hiérarchie, par exemple? Est-ce que, par exemple, il est devenu plus facile de débattre, de discuter? Est-ce que ces groupes-là représentent une alternative réelle, la façon de discuter, de proposer de nouvelles choses par rapport à ce qui devait se passer dans le Parti du Travail ou au Parti Socialiste?
Alors là, c'est, je pense que c'est une des caractéristiques des groupes de cette époque-là, où le sectarisme était très important et où en fait c'était très très peu démocratique au sens où on l'entend idéalement, c'est-à-dire où chacun avait le droit et le pouvoir et la capacité de parole et où en fait les directives venaient quand même des membres du bureau directeur ou du bureau politique, enfin, quel que soit le nom, il y avait un certain nombre de gens qui définissaient la ligne du groupe. Et c'était très, très difficile d'avoir des discussions ouvertes. Et ça, je crois que c'est une des grosses critiques que je fais maintenant à l'activité de ces groupes, où en fait on sacrifiait à la finalité en se disant mais il faut une unité pour arriver à convaincre, à défendre un idéal, et au fond probablement on a défendu des choses avec lesquelles on n'était pas forcément pleinement d'accord, et en tout cas qui n'avaient pas été suffisamment discutées.
Est-ce qu'en tant que femme, ce phénomène, tu as l'impression qu'il était plus fort encore? Quelle était ta place de femme dans ces discussions-là? Tu as eu l'impression que tu devais te taire? Est-ce que tu subissais un suivisme plus fort encore que les hommes? Comment tu te sentais? Est-ce que tu te souviens de frustrations dans des débats?
Alors, les frustrations, je crois qu'elles étaient partagées par pas mal de militants hommes et femmes, mais c'est vrai que les responsables des groupuscules ou des groupes politiques ou des groupes gauchistes de l'époque étaient essentiellement tenus par des hommes. Donc, c'est vrai que les femmes, même si numériquement elles étaient aussi nombreuses, je crois que si on fait le calcul...
Donc en fait, elles voulaient s'engager
aussi. On trouvait autant d'hommes que de femmes dans ces groupes, mais on retrouvait quand même ce qu'on retrouvait dans les autres partis, c'est-à-dire que les femmes n'étaient pas au poste de direction. Alors on peut peut-être trouver les mêmes raisons dans les autres partis, mais enfin, là, c'était pas alternatif dans ce sens-là.
Parce qu'en fait, quand même, bon, on peut s'imaginer que dans les partis officiels traditionnels, elles subissaient le poids des gens élus, etc. Ou quand on pense à l'attitude des femmes par rapport à un patron, etc. Bon, il y a un enjeu de pouvoir très important. Mais là, quand même, on était dans un moment où on remettait en cause la hiérarchie, où on remettait en cause les rapports de pouvoir, des structures officielles. Et les femmes se comportaient, vivaient de la même façon que dans toutes ces structures que l'on critiquait. T'as l'impression qu'elles étaient incapables de réagir, ou que le poids des choses était tellement fort, ou qu'au contraire il y avait la trouille d'être différente, de ne pas se montrer aux côtés des garçons?
Alors moi, à l'époque, effectivement, je crois pas que... On contestait beaucoup plus la société en tant que classe sociale, sans du tout intégrer ces problèmes de féminisme. Absolument. C'est quelque chose qui, au début en tout cas de ces groupes, n'existait pas comme problématique, même si peu à peu, on s'est quand même rendu compte que si on voulait quand même répondre à des mouvements qui mobilisaient beaucoup et qui quand même politiquement devenaient importants, il fallait aussi se préoccuper du problème des femmes, mais au début c'était très peu existant, et les femmes au fond mettaient leur problème, peut-être le problème femme, en deuxième lieu et mettaient en priorité les problèmes de type
vie privée,
de type vie privée, mais surtout il faut qu'il n'y ait plus des classes pauvres, des classes riches, etc. Et c'était le féminisme est en deuxième position.
Toi, tu as des souvenirs marquants de choses que tu as détestées dans les rapports hommes-femmes de cette époque-là?
Oui, notamment le fait que les femmes n'étaient pas prises en compte, et on pouvait avoir exactement le même rapport avec les hommes du groupe que on pouvait l'avoir dans d'autres groupes qui n'étaient pas du tout politisés. Donc en fait, on n'avait pas posé ce type de problème-là et on n'avait pas changé les rapports, sauf sur des plans individuels. Mais collectivement, c'est un problème qui n'a pas été pris en compte. Donc les rapports n'ont pas changé à l'intérieur d'organisations ou des groupes.
Et même était assez exacerbé. Entre autres, tu évoquais tout à l'heure l'attitude très machiste dans la drague de certains.
Par exemple. Notamment ceux qui avaient du pouvoir dans le groupe. Et qui volontiers transposaient ce pouvoir sur le plan des relations affectives et sexuelles. Ce qui était effectivement. Ce qui pouvait donner des choses très, très difficiles à vivre pour un certain nombre de militants.
Peur de mon père, peur de ma mère, peur de la misère, peur du tonnerre, peur de l'ordinaire, peur d'engraisser, peur d'embrasser, peur de me tromper, peur d'éclater, peur de parler. Jalouse de la provocante Lise, jalouse de la téméraire Élise. Peur de la grande peur, peur du bonheur, peur de la noirceur, peur de mon cœur, peur de ma sœur, peur de l'ennui, peur du whisky, peur de l'énergie, peur de ce qui est petit, peur qu'on m'envie. Jalouse de la gourmande Denise, jalouse de la perverse Héloïse. Peur d'être belle, d'être rebelle, peur d'être réelle, peur d'être pucelle, peur d'être miel, peur d'être conquise, peur d'être soumise, peur de la maîtrise, peur de l'analyse, peur de la crise. Jalouse de la vibrante Marise, jalouse de la fière Marie-Louise. Peur de trop jouir, peur de pas jouir, peur de souffrir, peur de pas souffrir, d'en mourir.
C'était Pauline Julien qui nous exprimait nos peurs à des moments divers, mai 68 ou aujourd'hui, je crois. Nous continuons notre discussion avec Anne-Lise Dupasquier. Et après mai 68, quelles répercussions a eu tout ce grand chambardement dans sa vie d'aujourd'hui?
Bon, à partir de tout ce qui s'est passé à ce moment-là, est-ce que tu as l'impression que ça a eu une influence à long terme par rapport à ce que tu as pu vivre, je ne sais pas, 10 ans plus tard et jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que de toute cette explosion, un peu avant pour toi, ensuite confirmée par mai 68, qu'est-ce qu'il en est resté jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que ça a été un moteur? Est-ce que ça a été des illusions?
Alors ça a été certainement en partie des illusions, puisqu'en fait on n'est pas arrivé à changer ce qu'on pensait pouvoir changer. Mais je dirais quand même que c'est resté une chose importante que de lutter pour pas pour le changement de la société maintenant, mais pour...
Ça, tu y crois plus. Tu penses que c'est plus possible.
En tout cas, pas dans notre prochaine décennie. Donc, maintenant, c'est plutôt des luttes limitées pour des choses auxquelles on croit sur le plan de des conditions de vie, de la défense d'un certain nombre de gens qui ont des conditions de travail particulièrement difficiles, mauvaises. Et là, notamment, je participe au groupe Contre les Nocturnes, parce que je pense que l'assouplissement des horaires de travail peut être vu comme très positif pour un certain nombre de personnes, mais pour les femmes, c'est sûr que c'est une détérioration des conditions de vie, et puis que ça veut dire au fond qu'on aura de moins en moins, on risque d'avoir de moins en moins de temps qu'on consacre à d'autres choses qui nous font envie. Et ça me semble être des choses importantes pour lesquelles il faut essayer de ne pas changer en mal la situation dans laquelle on se trouve, et éventuellement obtenir des améliorations. Mais c'est très limité. La lutte, moi j'y crois toujours. Donc l'opposition, j'y crois toujours. Et puis c'est vrai qu'il y a un certain nombre de forces potentielles qui peuvent se réveiller à des moments peut-être que nous on n'attend pas, et en tout cas que la société en général n'attend pas. Donc je ne crois pas qu'il faut penser que c'est impossible, que ce soit moins probable, que je pense que ce soit moins probable, oui. Mais en tout cas, je ne pense pas que les gens sont complètement endormis sur tout le monde.
Tu penses que les choses ont changé pour les femmes? Ce qui était dur, difficile à l'époque de mai 68, est-ce qu'aujourd'hui ça te semble avoir changé, évolué?
Mais moi je pense pas tellement que ça a évolué, dans le sens que les femmes, elles ont toujours des conditions personnelles souvent beaucoup plus astreignantes, notamment si on pense aux femmes mères de famille. Ça, je crois que ce point de vue-là, il n'y a pas eu tellement d'amélioration sur les équipements. Il y a eu une augmentation des travaux à temps partiel. Alors ça permet à des femmes de travailler, mais il y a plus de mères de famille qui travaillent, aussi parce qu'elles en ont besoin financièrement, pas seulement parce qu'elles en ont envie. Et puis, sur le plan de l'ouverture des professions, il y a eu certainement des changements, mais je trouve pas qu'ils sont aussi spectaculaires que ce qu'on veut bien dire. Et les rapports hommes-femmes, malgré l'augmentation du travail des femmes, en tout cas n'ont pas changé beaucoup dans la vie familiale. Même s'il y a un certain nombre de choses qui sont peut-être moins rigides, qui sont plus négociables, je pense pas que les hommes ont pris autant de place dans la vie quotidienne que ce qu'on aurait souhaité en défendant le travail salarié des femmes. Et je crois que c'est aussi souvent des femmes ont cumulé en fait des choses supplémentaires, et que des rapports profondément et de manière majoritaire n'ont pas changé, de manière minoritaire non plus.
Convenu d'une rencontre lorsque la direction aurait quelque chose de positif à nous communiquer. Or, il s'avère aujourd'hui que la direction demande la parole sans avoir discuté avec ses délégués provisoires. C'est déjà une preuve que le directeur ne veut pas reconnaître le syndicat.
C'est Colette Magny qui nous branche avec les ouvrières de mai 68 en grève.
La IEMA, si nous n'imposons pas notre volonté de la faire respecter. Un vote à bulletin secret a été imposé hier par la direction. Nous ne pouvons pas non plus l'accepter. Ce ne sont pas les patrons ni le gouvernement qui ont demandé aux ouvriers de faire grève. Ce n'est pas non plus eux qui aujourd'hui viendront nous imposer la façon dont nous poursuivrons notre lutte pour faire aboutir nos revendications. Je voudrais attirer votre attention, comme l'ont fait déjà des camarades, sur le fait que la direction se retranchait derrière des décisions gouvernementales. Mais le, Mais le gouvernement n'a pris aucune décision concernant les revendications essentielles. Ce qui veut dire que si aujourd'hui vous acceptez de reprendre le travail, vous avez accepté de faire grève pendant 10 jours pour ne rien obtenir. Les 10% d'augmentation ne veulent rien dire si nous n'obtenons pas l'indexation sur le coût de la vie.
La machine nous enlace comme un boa. Fais gaffe au chrono. Ah, j'ai chaud. Si je vais pisser, tu crois que la chaîne s'arrêtera. Flac, flac, flic, flac, flic, flac. Mais tu peux pas pisser comme ça tout le temps, tu romps les cadences. La machine nous enlace comme un boa. Dans la chaleur, le bruit, les horaires, je manque d'air. Les cadences, les mains dans le chrome. Les bains d'acide, le trichlore. La vapeur giclia. La vapeur giclia. Sur un échafaudage, un ouvrier hurle vers l'émigré. Pousse-toi de là, ici, des gars comme toi, on n'en veut pas. C'est vous qui nous piquez tout le boulot. Si tu pars pas, je te jette en bas. Mais quand la grève est là, comme à la cellophane, nos femmes, elles lavent le linge des émigrés. On ne reste plus les Gaulois entre nous. On ne reste plus les Gaulois entre nous. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. La machine nous enlace comme un boa. Chez Gadoc, en chambre noire. À 0 degré, 8 heures seul sans parler. 2 fois au WC, abruti, saoul, je sors de là. Faire les courses, faire le dîner. Nourrir les gosses, les coucher. Et puis, mon mari. Je suis prête pour l'abattoir. Un jour chez Cadoc, j'ai rêvé de construire un jardin comme un arc-en-ciel, avec des couleurs à vous éclater le cœur. Les pommes jaillissent des salades, les petits pois roulent le long de mes cuisses. Les tiges, les branches en bras d'amoureux moulent mes hanches. Les nervures des feuilles me quadrillent les yeux. Les pétales des fleurs coulent le long de mes cheveux. Oui, les jacinthes seront en fleurs pour Noël. Un jour chez Cadoc, j'ai rêvé de construire un jardin.
Et pour continuer maintenant notre mai 68, donc vous avez tous reconnu quand même la grande Colette Mani qui s'est beaucoup engagée dans tout ce mouvement de mai 68 et depuis longtemps aux côtés des travailleurs, des travailleuses. Et maintenant, nous allons avoir au téléphone la sœur d'Alda. La sœur d'Alda, qui, je ne connais pas son prénom, elle va me le dire maintenant. Bonjour, vous êtes en ligne avec nous. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, tu t'appelles comment?
Je m'appelle Gilda.
Ah, Gilda, voilà. Oui. Je crois que toi, à l'époque, en 68, tu étais jeune, non? Tu avais 17 ans.
J'avais 18 ans.
18 ans, oui.
Oui.
Et tu faisais l'école des Beaux-Arts au Tessin, c'est
oui.
ça? Et puis, en fait, tu avais choisi de vivre une situation un peu différente de ceux qui se promenaient dans la rue, dans les manifestations. Tu étais entre autres très attirée par visiter tous les hauts lieux du voyage, si on peut l'appeler comme ça, de la route européenne. Donc, tu as beaucoup courbé les cours pour aller te balader un petit peu partout en Europe, c'est ça?
Oui, d'accord. Bon, d'abord, il faut dire que je n'avais pas encore décidé ce que j'aurais fait. Je comprenais qu'il fallait faire quelque chose.
Mmh.
Mais les mecs qui faisaient politique me dégoûtaient tellement que j'avais pas envie de vivre avec eux et de rester avec eux. Parce que moi, j'aurais aimé faire des voyages, et changer les personnes comme de ce qu'ils étaient,
mm-hmm.
et dans le même temps faire du travail politique. Mais ça, ce n'était pas possible à l'époque parce que ceux qui faisaient politique étaient très rigides. N'écoutaient que de la musique politique, ennuyante. Ils étaient très méthodiques et tout ça. Et moi, je détestais
ah, oui.
le genre de vie non, mmh. qu'ils faisaient.
Mmh.
Et alors, je ne savais pas qu'est-ce que faire. Je passais des vacances avec les beatniks. Puis je rentrais, je discutais encore. En fait, je ne savais pas qu'est-ce que faire, vraiment.